midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon week-end à tous. Mon invité s'appelle Yacine Adnan.
Bonjour.
Vous êtes le bienvenu sur Beurre FM. Après une dizaine de recueils de poésie, Hot Maroc, votre premier roman, sort enfin chez Actes Sud. C'est une traduction qui arrive en France. Votre livre est sorti déjà il y a quelques années. Alors, Hot Maroc, ça fait référence à quoi ?
Au Maroc.
D'accord. Mais dans votre livre, c'est le titre d'un journal électronique.
Oui, absolument.
Qui arrive au Maroc et qui couvre les événements en temps réel.
Absolument. Il faut dire que c'est inspiré de Hotmail. Donc voilà, c'est Hotmail. Donc j'ai fait Hot Maroc pour dire que c'est un espace. Donc il y a déjà le fait de dire Hot, les gens vont penser à autre chose.
Surtout que ça se passe à Marrakech, on se dit tiens, c'est un livre sur les folles nuits de Marrakech.
Absolument, donc oui, mais finalement non, c'est Hot Maroc, c'est un peu comme Hotmail, c'est un espace online, une magazine sur le web, très interactive, où les gens peuvent commenter et Rahal était un des commentateurs les plus en fait
Rahal, on en parlera, mais c'est votre héros. Il faut expliquer aussi que c'est un magazine pionnier. L'action de votre livre se passe débute. Hein, on est quelques mois avant la fin du règne de Hassan II, oui. et après il y a l'arrivée du numérique au Maroc. Absolument. Alors vous êtes écrivain, journaliste, critique littéraire. Vous avez l'habitude de poser des questions à des auteurs. Vous préférez poser des questions ou y répondre ?
Bah, écoutez, les deux, que ça soit en arabe surtout, parce que vous savez, moi je suis arabophone, et quand je suis dans une autre langue, comme le français par exemple, je perds quand même un peu de mon intelligence. Donc je ne me sens pas très à l'aise, ni en posant les questions, ni en répondant.
Donc c'est un vrai exercice auquel vous vous livrez aujourd'hui.
Oui, absolument, c'est...
Alors, Rahal Laouina, c'est le héros de votre roman. Il vit dans un bidonville aux portes de Marrakech, Aïn Iti.
Aïn Iti.
On apprend d'ailleurs dans votre livre comment sa famille est arrivée là, mais ça, on l'apprend à la fin. C'est une lettre que son père lui explique. C'est quoi ce bidonville ?
C'est pas un bidonville déjà, parce qu'une ville comme Marrakech, où il y a beaucoup de chaleur et c'est très froid pendant l'hiver, on n'a pas de bidonville, mais on a vraiment des quartiers très défavorisés. Ce sont des ceintures de pauvreté qui en fait autour de la ville de Marrakech. Aïn Iti est un de ces douars-là. Donc, et il faut dire que les années 80, il y avait une sécheresse très fameuse et très dure, donc pas mal de gens qui ont commencé
à venir
à Marrakech, tout simplement.
L'attraction de la ville, quoi.
Oui, ils peuvent être des mendiants à Marrakech que de mourir de faim dans leur village lointain. Et il faut dire que ça, c'est quelque chose que je connais très très bien, parce que les gens moi, je suis originaire des Essaouira, et les gens des villages de Essaouira venaient à Marrakech, à des quartiers comme Aïn Iti. Donc ça, c'est quelque chose, ce sont des faits. Il faut dire que le roman, il s'est basé sur des faits réels, des faits historiques de notre histoire contemporaine marocaine. Et bien sûr, ça c'était la base, mais le travail de romancier vient après.
Oui, donc son père lui fait croire qu'ils sont venus à cause de la sécheresse, mais on voit que la raison de leur venue, c'est pas du tout celle-là. Rahal, c'est pas un prénom courant. Qu'est-ce qui vous a inspiré le prénom de votre héros ?
Oui, le prénom de Rahal. D'abord, Rahal, en arabe, ça veut dire voyageur. C'est quelqu'un qui voyage tout le temps, qui voyage trop. Et donc, lui, déjà, c'est un voyageur à travers le net. Il est là, il voyage entre les pseudonymes, entre les websites, etc. Donc, il y a d'abord ça. Mais il faut dire que le nom Rahal, c'est un nom des compagnards. Au Maroc, tu ne peux pas trouver quelqu'un maintenant qui s'appelle Rahal. De notre âge, ça moins...
Alors, il y a Bouga Rahal.
Comment?
Bouyaral.
Et il y a Bouyarahal. Bon, ouais. Donc Bouyarahal, c'est...
Sidi Rahal.
Oui, Sidi Rahal ou bien Bouyarahal, qui est le saint d'une autre tribu. C'est pourquoi il disait...
Ça peut être une explication de son prénom, puis il y en a un autre, Rahal, Jbiya.
Alors, Jbiharhal, c'est autre chose, parce
qu'est-ce
que le
c'est
mec... Oui, Jbiharhal, c'est quelqu'un, c'est un militant de gauche, c'est un marxiste-léniniste qui a essayé de fuir son prison dans les années de plomb marocaines, et il a perdu sa vie.
Donc, et il est mort en voulant s'échapper de prison.
Ouais. Bon, oui, il est pour le mouvement étudiantin... Le mouvement des étudiants, il était un martyr et un symbole, Rahal.
Donc c'est un prénom qui est quand même lourd de sens à porter.
Il est lourd de sens, mais Rahal ne savait pas ça. C'est à l'université qu'il va découvrir que, parce qu'au début, Rahal, il était mal à l'aise. Il avait un certain zorhalisme, un problème avec son nom. Il le porte mal parce qu'il est dans une ville avec un prénom de compagnard. Et il était mal à l'aise. Mmh. Mais c'est à l'université quand il a vu que tout le monde chante Rahal. Il y a une chanson très connue au Maroc de Saïd Al-Mghribi qui chantait Rahal. Alors là, il voit que tout le monde, les gens de Marrakech, les grands militants qui disent Rahal, Rahal. Donc il y avait some reconciliation with his name.
Oui.
Il a été réconcilié avec son nom.
Ça lui allait bien. Finalement, l'identité était valorisante.
Absolument.
Alors il prépare un diplôme en lettres et littérature d'arabe classique. Après avoir échoué en histoire et en géographie, il est bizarre votre personnage, hein.
Oui.
Très particulier, c'est quelqu'un qui tient le monde à distance. Et alors, il a une particulière, il a un don, c'est qu'il arrive à associer à chaque personnalité humaine un animal.
Ça, c'est vrai, oui. Il y a cette animalisation des humains dans le roman. Déjà, c'est un... Oui, c'est Rahal qui se voit dans un forêt, peut-être. Ça lui donne, en fait, ça lui donne... quand il devient méchant avec les autres animaux de sa forêt sauvage. Donc, ils se sont... comme il n'a rien fait de mal, finalement. Peut-être qu'il y a un peu de ça, mais pour l'écrivain que j'étais en train... Quand j'étais en train de travailler sur ça, pour moi, ça m'a aidé, ce côté animal, de bien définir les traits de caractère, soit physique et psychologique, de mes personnages.
Alors lui, comme il n'est pas très beau, il se fait traiter de face de rat, souvent. Mais lui, oui. Dit non, moi je ne suis pas un rat, je suis un écureuil.
Un écureuil, ouais. Absolument.
Et alors, j'ai appris dans votre livre qu'on ne dit pas de mémoire d'éléphant, mais on dit de mémoire d'écureuil, parce que l'écureuil est un animal qui a très très bonne mémoire.
Absolument, il a une très très bonne mémoire, oui.
Comment vous savez ça, vous?
Ben, j'ai fait des recherches.
J'ai fait
des recherches parce que j'ai fait un travail de recherche sur les animaux, sur tous ces animaux-là, parce que il fallait quand même dire des informations très bien précises. Par exemple, la menthe, par exemple, comment elle mange la tête.
Alors la menthe, c'est son papa.
La menthe, c'est son papa, la menthe religieuse.
Et sa maman, c'est le pélican.
C'est le pélican. Ouais. Et lui, au bout d'un moment, Rahal va dire à son papa, « Mais attends, papa, pourquoi t'as peur de maman comme ça, alors qu'elle n'est pas une menthe ?» Ça veut dire qu'elle ne va pas te tuer, parce que la menthe religieuse peut tuer son mari.
Oui, bien sûr.
Bah, voilà, donc, moi, j'y jouais un peu sur tout cela pour...
Et finalement, voilà. C'est ce qu'elle fait.
Et finalement, c'est ce qu'elle fait.
C'est ce qu'elle fait.
Oui, ouais. Ça c'est vrai.
Et vous, si vous étiez un animal?
Comment?
Si vous étiez un animal?
Le problème, c'est qu'après finir le roman, moi j'ai travaillé pendant 5 ans sur le roman, et quand je rencontre n'importe qui, je dis, ça doit être quoi comme animal? Mais finalement, je n'ai jamais posé cette question. Et moi, si j'étais un animal...
C'est vrai?
Oui.
Mais là, maintenant que vous pouvez la poser... Oui. Donc vous y posez maintenant et vous la posez maintenant et vous nous le donnez avant la fin de l'émission.
Avant la fin de l'émission, ça va.
Il existe même des écureuils qui volent. Alors je suis allé vérifier, effectivement.
Oui.
C'est le Polatouche. C'est un écureuil qui vole. Ouais.
Qui vole, oui, voilà.
Qui vole. Alors c'est quelqu'un qui vit beaucoup dans sa tête. Il est très très lâche et finalement il terrasse ses adversaires la nuit pendant ses rêves. Et on verra que dans la deuxième partie du roman, quand il devient un justicier d'Internet, il va sacrifier aussi ses adversaires comme ça, dans l'anonymat le plus total.
Absolument, parce que lui, il ne peut pas. Bon, déjà, c'est quelqu'un qui n'est pas responsable. Il n'assume jamais la responsabilité ni de ses paroles, ni de ses actes. Alors, il n'y a pas d'acte, finalement, parce qu'il est trop lâche, trop timide pour vraiment come out with acts, real acts.
Pour passer à l'action.
Il est trop timide pour passer à l'action. Et il est là, dans l'anonymat, il est incapable de confronter trois personnes, de parler devant les gens. Quand elle était étudiante, quand elle n'aime pas quelqu'un, à part les rêves où il réglait ses comptes dans ses rêves.
Là, physiquement.
Mais physiquement, tout ce qu'il peut, c'est à l'école, il va aux toilettes et dans les murs des toilettes, il commence à insulter les gens. Et finalement, pour lui, Facebook, ce n'était qu'un mur. Mais c'est un mur qui est vraiment open, endless, et pour lui, c'était l'occasion de régler ses comptes. Mais régler ses comptes avec qui? Parce que le mec, il a beaucoup de haine aux autres, et il est trop agressif, et il a plein de choses pour des gens même qui connaissent même pas. Alors là, il a commencé et il devenait obsédé. Par créer des pseudonymes, attaquer les gens, tirer sur tout ce qui bouge. Donc voilà, c'est un peu ça, Rahal.
Mm-hmm. Sauf que finalement, au début, quand on écrit sur les toilettes, on est obligé de signer.
Oui.
On doit mettre son nom, souvent.
Oui, mais pas pour Rahal. Rahal, juste, il insulte les gens et voilà.
Et finalement, il se venge de gens qu'il aime bien aussi.
Absolument, voilà.
Ça, c'est un peu paradoxal.
Oui, parce que l'idée, c'est que Rahal, il a un problème avec tous les gens qui, avec leur réussite, il voit que lui, il n'a rien fait dans sa vie.
Il est jaloux, en fait. Il jalouse.
Il est très jaloux. Ouais. Il est très jaloux et envieux, on dit ça ?
Ouais, envieux, on peut.
Voilà.
C'est bien. En fait.
Donc voilà. Donc c'est un type qui. C'est un peu ça qui lui motive pour agir, réagir. Il est là pour régler des comptes qui n'existent que dans sa tête, finalement, parce que ce sont des gens qui ne connaissent même pas, et des gens qui sont très gentils avec lui. Et il y a, il faut dire aussi que Rahal, il y a son alter ego aussi, parce que lui déjà, il est en schizophrénie, parce qu'au bout d'un moment, il commence à dire à le curé, oui, attends, tu as exagéré, tu as frappé fort le mec, il est gentil, et tout cela, ça veut dire que...
Il est toujours entre le bien et le mal, finalement.
Absolument, il est vraiment très complexe comme personnage.
Qu'est-ce qu'il incarne finalement ce personnage de Rahal dans la société marocaine ?
Rahal, voilà, c'est ça. Voilà, oui, c'est vrai. C'est Rahal, un individu, un cas isolé, ça va intéresser personne. Ça va pas m'intéresser. Mais il faut dire que au bout d'un moment, j'ai commencé à voir un peu que on a une vie parallèle, qui la vie online et la vie électronique, si vous voulez. Mais il y a des gens qui sont là pour empoisonner cette marge qu'on a. Normalement, c'était un plaisir pour nous d'avoir Internet, d'avoir Facebook, d'avoir tous ces réseaux-là pour encourager notre société civile, travailler davantage pour mener des actions politiques, des droits de l'homme, pour travailler, pour to come out with something great and wonderful for your...
C'est marrant parce que vous passez à l'anglais. Hein. Et c'est vrai que vous voyagez beaucoup aux États-Unis, c'est pour ça que vous passez à la langue anglaise. Pour faire de belles choses, finalement.
Non, mais c'est juste quand je suis bloqué, quand je ne trouve pas les mots.
Allez-y, je vous aide.
Mais l'idée, c'est que cette atmosphère-là devient empoisonnée de plus en plus.
Ceci dit, la délation, elle n'a pas commencé avec les réseaux sociaux. La délation, elle a toujours existé.
Ah oui, c'est vrai, mais...
Le mouchardage, la délation, le renseignement, c'est quelque chose qui...
Je suis d'accord. Sauf que les réseaux sociaux assurent l'anonymat. Alors que des lâches irresponsables comme Rahal Laouina, il peut s'exprimer tant que l'anonymat est garanti sur Internet.
Yacine Annan est notre invité. Son livre vient de sortir chez Actes Sud. Ça s'appelle Hot Maroc et on en parle jusqu'à 13h sur Beurre FM.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Yacine Annan est l'invité du Book Club jusqu'à 13h pour parler de la sortie de son roman qui s'appelle Hot Maroc. C'est votre premier roman. Vous avez écrit plusieurs livres de poésie avant. Et d'ailleurs, un des ennemis de votre héros, hein, qui s'appelle Rahal, est un poète, finalement. Et il aime beaucoup la poésie qu'il connaît bien, et la poésie classique aussi, qu'il connaît très très bien.
Ouais.
C'est paradoxal, finalement, d'écrire de la poésie à un moment donné où, dans le monde entier, plus personne ne lit.
Oui, ça c'est vrai.
C'est-à-dire que c'est un luxe, hein. c'est très exigeant.
Ouais, bah, il faut dire que maintenant, dans le monde arabe, on parle d'une exode de la poésie à... au roman. On a plein de poètes arabes et marocains qui maintenant ils écrivent le roman et on a même des critiques qui parlent de l'ère du roman et voilà, la poésie c'est fini.
Ce qui et est moins les gens lisent et plus les romans sont gros.
C'est vrai, oui. Mais il faut dire que moi déjà c'est mon premier roman et j'ai pas pensé à un gros roman comme celui-là, mais c'était Rahal qui a joué le jeu et c'est lui qui m'a fait courir. J'étais en train de courir derrière lui et c'était plus que 400 pages.
Bon, alors votre héros, bon, il arrive plein de choses. Hein. Il trouve un petit boulot, il tient une téléboutique.
Ouais.
Qui très vite est remplacé par un cybercafé. Et donc, c'est là qu'il découvre, lui, Internet et qu'il tombe un jour sur Hot Maroc. Et là, finalement, il découvre un univers qu'il va aimer puisqu'il va laisser un commentaire. Et là, il va se rendre compte que le commentaire qu'il laisse sur un article va avoir un succès retentissant. Et qu'est-ce qu'il découvre à ce moment-là ?
Il découvre que, il découvre d'abord deux choses. Il découvre son talent. Parce qu'il n'a jamais essayé de chercher ses propres talents. Il n'a jamais essayé d'écrire un article, lui, qui connaît très bien la littérature arabe. Il a quand même une belle plume. Sinon, il ne va pas séduire tous ces gens-là par des commentaires. Mais il va découvrir quelque chose de plus intéressant et de plus grave et de plus dangereux. C'est qu'il n'est pas le seul. Il y a plein de gens qui aiment des commentaires aussi agressive, des commentaires qui sont dans la destruction, qui sont dans la défamation, qui sont dans le... Et donc, voilà. Et là, Rahal devient un phénomène un peu dangereux.
Alors, il se crée plusieurs avatars, il a plusieurs identités, hein, donc que ce soit sur ce site, il se crée des adresses internet, voilà.
Absolument, et sur Facebook, c'est who I am, c'est... Donc, il est vraiment... il essaye de... Il se multiplie, donc c'est un peu comme un vrai monstre, comme un...
Tentaculaire, ouais.
Oui, voilà.
Finalement. Il va devenir la star de Hot Maroc, hein, c'est le titre de votre roman, mais c'est aussi le nom de ce journal en ligne. Mais il va intervenir sur Facebook, il va se créer des profils de femmes.
Ah, oui,
également.
Absolument, absolument. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que Rahal Laouina, il va découvrir un espace où il peut. Mais l'idée, c'est pas que il a plein de pseudonymes qui commentent sur Hot Maroc. Il a plein de profils qui sont pas vrais, qui sont falsifiés. Mais l'idée, c'est que tout cela, c'est pour détruire.
Tout c'est, cela. C'est pas pour commenter, c'est pour casser.
C'est pour casser, c'est pour faire mal aux gens, c'est pour. Et ce qui était grave, c'est que finalement, il y a des gens qui vont dire que ah tiens, celui-là, il est intéressant. Donc, il doit travailler avec nous. Donc, ça devient un peu systématique. C'est pas systématique, mais ça devient... T'as l'impression que nous sommes dans un pays où il y a des gens qui veulent investir dans des zones d'écap, comme Rahal Aouina, des gens méchants comme celui-là. Et finalement, le journalisme, ça devient un peu ça.
C'est pas du journalisme, ça.
Ben, le problème, c'est
parce que... Parce que le journalisme, c'est un autre métier. C'est-à-dire que les gens qui font l'information aujourd'hui ne sont pas des journalistes.
Absolument. Mais le problème, c'est que quand tu te trouves devant des journaux et devant des websites qui sont très connus, quand tu te trouves avec des youtubeurs, avec des journalistes, même journalistes, des blogueurs qui sont des influenceurs et des leaders d'opinion publique dans le pays, alors qu'ils sont de la sorte de Rahal Aouina, ça c'est un peu grave.
Mmh. C'est des gens qui font l'opinion, mais c'est pas des journalistes, encore une fois. C'est,
ça,
la, c'est la grande référence. Rahal croit qu'il est plus malin que les autres, et finalement il n'est pas plus malin que les autres, puisqu'il se fait coincer, il se fait repérer, il se fait racheter, et il devient lui-même un des pions de cette manipulation.
Ça, c'est vrai.
Le Maroc est à l'abri de ça ou pas du tout? Est-ce que le Maroc est à l'abri de ces manipulateurs ou pas du tout?
Le Maroc, moi j'ai écrit ce roman-là parce que nous ne sommes pas à l'abri du tout, non. Le problème, c'est
parce
ça.
Parce que ça ressemble à l'Amérique de Trump, finalement, vous voyez.
Je suis d'accord parce que je parle de quelque chose qui est pratiqué pas tout simplement au Maroc. Ben oui, le Maroc n'est pas à l'abri, on a ça. Mais même Trump, quand oui, c'est bien de le citer, même des leaders politiques comme ça, ils ont des pseudonymes qui travaillent avec eux pour casser leur adversaire, pour, en fait, voilà, oui, il paraît que maintenant, notre online est empoisonné d'une façon vraiment qui fait peur.
Mmh. D'ailleurs, il est récupéré. Alors, toute ressemblance avec des événements s'étant passés au Maroc sont fortuites, comme on dit aujourd'hui. Mais il se fait récupérer dans une campagne politique, lui.
Oui, Rahal.
Oui.
Oui, bien sûr, mais il était récupéré. Oui, il était récupéré d'abord parce que il travaillait dans le cyber et le patron, il va se présenter aux élections. Donc, il était là pour donner le thé, le café aux gens, donc le petit serveur ou quoi. Mais il était aussi récupéré par le système, le système qui est derrière Hot Maroc et qui utilise bien ces pions-là.
On a une première partie qui se passe sous Hassan II, et puis finalement, il y a la mort du roi, l'arrivée d'un nouveau roi. Est-ce que l'ère numérique, elle arrive avec Mohamed VI, et finalement, est-ce que le Maroc rentre dans cette modernité numérique à ce moment-là?
Oui, absolument, absolument. Bon, il n'y avait pas d'Internet à l'ère de Hassan II. Et oui, déjà lui, quand Hassan II est mort, il était dans un cybercafé, il travaillait dans un... Non, il était dans
la téléboutique.
Téléboutique.
Il était dans la téléboutique. Et c'était avant Internet, ouais.
Avant, et c'était ça un peu, parce qu'il y avait plein de téléboutiques et les Marocains veulent communiquer, parler. Mais pourquoi toutes ces téléboutiques-là? Qu'est-ce que vous allez dire aux autres? Et moi, je me souviens très très bien dans la famille des Marocains qui disent « Mais ces téléboutiques, c'est incroyable. Mais pourquoi tout cela? Qu'est-ce que vous voulez dire aux autres ?» Déjà, l'idée de communiquer, parler à l'eau tout le temps, c'était choquant. Et par après, il y a le portable, et par après, il y a Internet. Moi, j'ai essayé quand même de suivre un peu tout cela avec Rahal et à travers Rahal. Tous ces changements, quand il était...
C'est-à-dire qu'au début, quand il est à la téléboutique, il espionne les conversations, donc il se branche sur les conversations des clients, et après, il va vider les historiques des gens qui envoient des emails.
Absolument. Oui.
Ouais, la technologie change, mais le métier reste le même.
Mais le métier reste le même. Et c'est ça.
C'est l'espionnage.
Ça. Absolument, c'est ça. C'est ça. Il faut dire aussi que la technologie change et les problèmes de la société restent. Parce que finalement... Internet et ce n'est l'espace cyber pour moi ce n'est que on voit les choses davantage là-bas parce qu'il y a l'anonymat, mais sinon ce sont des problèmes qu'on a dans la société. Ça devient plus flagrant sur Internet parce que il y a l'intimidation, ça existe, Mais la cyber-intimidation, ça c'est flagrant. L'harcèlement, ça existe. Mais le cyber-harcèlement, ça devient beaucoup plus flagrant. Mais voilà, donc...
Lui, il veut déglinguer, par exemple, un poète, il l'attaque sur sa réputation, enfin, voilà, c'est très obsessionnel, finalement, dans ses attaques.
Absolument, ouais.
Pourquoi il le hait tellement, lui ?
Non, mais c'est pas juste le poète.
Non, mais lui, il lui en veut physiquement, puisque la première fois qu'il a de l'audace, c'est à une des conférences de ce poète, et il pose une question...
Absolument, il pose une question et l'autre, il était trop cool et lui, il n'a pas accepté. Comment ça, pour la première fois qu'il a essayé d'être clair, responsable et méchant, mais devant son adversaire, son ennemi, bah, il n'a pas d'ennemi de toute façon, c'est lui qui crée les ennemis dans sa tête. L'autre, il était très cool, il a réagi avec aisance. Mmh. Et ben, le mec, il était très, très mal à l'aise. Donc, il faut dire que Rahal, il a un problème aussi, parce que lui aussi, il est victime. Il ne faut pas qu'on oublie que c'est un type qui était harcelé quand elle était étudiant, quand elle était enfant. D'un certain bateau, Khalid Batout, il était harcelé. Et ça, c'est grave parce que pas mal, dernièrement, moi j'ai lu quelque part d'un élève qui était harcelé, il a fait une vidéo pour dire que je veux me suicider, quelque chose comme ça. J'ai entendu parler de ça.
Elle va raconter l'histoire où il est à la cantine et finalement, il ne retournera plus jamais à la cantine puisque gamin, il avait été harcelé.
Ah, voilà, c'est ça. Alors, Rahal...
Votre personnage, hein.
Rahal, et la cantine pour quelqu'un comme lui, c'était indispensable. Il n'a rien d'intéressant à manger à la maison. Mais voilà, c'est ça. Il est en train peut-être d'harceler les gens. La victime devient...
Bourreau. Oui, c'est une vengeance, finalement.
C'est une vengeance de la société, parce que...
Alors que finalement, il a du talent, il aurait pu être quelqu'un de bien.
Absolument, et surtout avec les commentaires, avec tout ce succès-là, il pouvait dire, bah, pourquoi pas écrire moi-même les autres. Et il se présente à un journal, à une revue, pour dire que voilà, vous aimez insulter les gens, voilà, moi je suis là, je peux les insulter. C'est ça le journalisme au Maroc. Ça va. Et avec, au moins, j'ai une plume, une arabe qui est plus correcte que l'arabe de vos journalistes. Mais c'était trop tard, parce que le mec, il était déjà dans un autre système. Mmh. Il a son salaire pour autre chose, et voilà.
Oui, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il a du succès sur la toile parce qu'il écrit bien, parce qu'il a une bonne plume.
Parce qu'il a une bonne plume, oui.
Oui. Ouais. C'est pas un escroc à ce niveau-là, il écrit bien il a beaucoup de succès.
Il a beaucoup. Et même par rapport au poète, il a critiqué la poésie du poète.
Sa question est très pointue et sa remarque est très pertinente.
Absolument, et même quand il a commencé à réagir au bout d'un moment, lorsque le poète a eu le grand prix de la poésie marocaine et tout cela, il était en train de critiquer, avec des pseudonymes bien sûr, sa poésie, mais il était juste. Et elle était même le titre du premier de la première partie qui parle de Faraja. Est-ce que je peux juste lire en français?
Allez-y.
Oui. Le titre dit le papillon en route vers l'abattoir. Ça c'est le recueil de poésie de Wafiq Draï. Mais Rahal dit mais c'est quoi cette connerie? Le papillon en route vers l'abattoir. Mais le papillon, non. On peut parler du feu, mais pas l'abattoir. L'abattoir, il n'a pas de viande. Le papillon. Donc, il a critiqué cette poésie moderne des gens qui n'en réfléchissent pas très bien aux relations entre les éléments de la phrase poétique. Et on a plein de ça dans la poésie arabe, dans la poésie française. Il y a des gens qui sont ça et l'écrivent sans bien y penser. penser aux images. Vrai. Donc Rahal, il était trop brillant dans ses critiques.
C'est pour ça qu'il n'avait pas sa place dans cette société. Yacine Hanlan est notre invité jusqu'à 13h sur Beurre FM.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Écoutez Saïd El Maghrebi sur Beurre FM. Alors pourquoi cette chanson est importante et illustre-t-elle justement une des thématiques et le héros de votre livre ?
Oui, parce que voilà, on a déjà parlé du fait que pour lui, il lui a donné l'occasion de se réconcilier avec son prénom. Et le poème, il faut dire que c'est la chanson de Saïd El Maghrebi d'abord, mais quand on était étudiant, on a pris une partie de la chanson et on répétait comme un slogan à l'UNIF. Mmh. Donc, c'est une chanson qui est devenue slogan, très connue, très répétée. Mmh.
Quel rôle jouent les femmes dans votre livre ?
Ah ben, les femmes, ça dépend. Il y a des femmes et des femmes. Il y a des femmes comme Hassania.
Alors, Hassania, c'est la femme qu'il va épouser. Absolument. Une femme qu'il n'arrive pas du tout à cerner au départ. Mais finalement, elle est très surprenante, cette femme. On croit la connaître, et finalement on la connaît pas du tout.
Donc on comprend pourquoi il n'a pas pu détecter son animal facilement.
Bon, c'est le hérisson.
C'est le hérisson.
Ouais.
Mais lui, non, ça a pris du temps avant qu'il le découvre. Et c'était même pas lui, c'est sa maman qui lui a dit c'est hérisson. Elle m'a dit ah oui, il est hérisson. Moi, j'ai pas pensé à ça. Donc voilà, c'est une femme qui est difficile à comprendre et à oui, c'est une femme très...
Elle est surprenante jusqu'à la fin, d'ailleurs.
Oui, absolument, absolument. On ne peut jamais penser que, comment elle va réagir.
Oui, et on ne peut pas prévoir à la fin de votre livre, d'ailleurs.
Absolument, oui. Oui.
Mais, il y a sa mère aussi qui est très surprenante.
Oui, sa mère, elle est un peu typique. Ce n'est pas comme Hassania.
Pourquoi elle est typique, sa mère?
Elle est un peu typique... On a plein de femmes marocaines de la génération de la maman de Rahel qui sont un peu comme ça. Ce sont des femmes very talkative.
Qui communiquent beaucoup,
qui
oui.
Qui communiquent beaucoup, qui sont un peu maladifs. On dit ça, maladifs.
Oui, chétives ou maladives. Ouais.
Voilà.
Ouais.
Donc, oui, c'est un peu... C'est ça. Pour moi, la maman de Rahel est un peu typique. Il y a un peu de stéréotype d'une maman marocaine, pas comme Hassania. Mais il faut dire que les femmes les plus intéressantes pour moi, ce sont, par exemple, la femme qui travaillait à l'hôpital quand la fille qui était en train de qui était enceinte et tout.
En train d'accoucher, oui.
Oui, en train d'accoucher, et il va mourir. Il va dire, ok, je comprends que vous êtes là pour protester, mais qui a la carte du sang? Qui a un donneur de sang déjà pour réclamer le fait qu'on n'a pas... Et finalement, tu as une quarantaine de personnes qui sont
en colère. Parce qu'il y a une pénurie de sang, en fait, finalement. Bon, faut expliquer.
Voilà, ouais. voilà, c'est ça. Mais personne de ces gens-là n'a jamais...
Donné. Voilà. Donc ils peuvent pas, voilà, c'est voilà. Difficile de protester quand soi-même on n'a pas fait cet acte citoyen de donner du sang.
Absolument. Et il y a une autre femme qui est très intéressante, c'est la professeure qui est à la fois militante des droits de l'homme et des droits de la femme, et à la fois c'est une femme religieuse. Et quand l'imam à la mosquée en train de donner le discours du vendredi, il a commencé à déraper, alors elle était là. Ça, c'est une femme aussi que je trouve extraordinaire. Alors, on a et la jeune étudiante de médecine qui a été maltraitée par Yazid. Donc, il y a vraiment des femmes. Moi, je crois que les personnages les plus positifs, c'était des femmes dans le roman. Même la pauvre Houyem. Courageuse, qui travaillait et que Rahel...
Il va usurper.
Méchanceté.
Oui.
Et là, il ne lui a pas communiqué juste ce qu'il faut pour qu'elle...
Parce qu'elle veut aller vivre en Italie, elle veut partir à Milan, il lui confisque son identité et son adresse, sa boîte mail.
Et il n'a pas lui donné l'information parce que...
Qu'on l'attend justement pour partir à Milan.
Absolument. Ouais, voilà. Et elle était là, elle restait là, elle travaillait pour sa famille et tout. Donc voilà, donc on a plein de femmes de toutes catégories.
Votre personnage, Rahel, on voit que c'est quelqu'un qui ne cherche pas la lumière, qui ne cherche pas à être connu. Non. Et finalement, quand il commence à avoir du succès en critiquant sur la toile, avec ses divers profils, il commence à avoir beaucoup de succès et petit à petit, ses personnages lui échappent. Et on sent que ceux qui ont du succès sur la toile, finalement, c'est quelque chose qu'ils aiment.
Absolument. Il faut dire qu'il aime le succès comme tout le monde. Il aime le succès, mais la nature de Rahel, il n'a jamais essayé de faire quelque chose pour y aller vers le succès. Tout le monde veut avoir quelque chose d'extraordinaire, tout le monde, cette self-realization, on veut tous faire quelque chose. Sauf que Rahel, le pauvre Rahel, quand elle a commencé à goûter le succès, c'était avec des pseudonymes. Et c'était depuis, c'était dans cet anonymat total. Donc, il était incapable d'en profiter et de réjouir.
De se réjouir parce que il n'est pas à visage découvert.
Absolument. Au bout d'un moment, même Yazid, qui méprise Rahal et qui le déteste, il était là. Et au bout d'un moment, il a dit ah non, il faut écrire ça. Peut-être que Wild Shab, le grand Wild Shab de Hot Maroc, peut lire ça et faire un commentaire sur notre quartier. Il était Rahal, au bout d'un moment, il a décidé je ne vais rien écrire parce que Yazid, il était trop sévère et trop impoli avec lui.
Il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on peut jouer avec tout le monde sur la toile? Par exemple, à un moment donné, il est contacté par un prince, oui, enfin, sur une de ses identités de femme. Hein. Oui. Mais il se pose la question, finalement, est-ce qu'on peut jouer vraiment avec un prince sur Internet? Est-ce qu'il y a des limites à ne pas dépasser? Est-ce qu'on peut jouer avec tout le monde?
Non, mais Rahal, c'est ça l'idée, c'est que Rahal, il a dit, pourquoi, William, tu es en train de jouer avec un prince? Il n'y avait pas de prince.
Non, c'était un usurpateur aussi.
Oui. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça.
Mais s'il y avait eu un vrai prince, est-ce qu'on peut jouer finalement avec le pouvoir?
Est-ce qu'on peut jouer avec le pouvoir? Ouais. Alors là, je vais vous raconter une histoire. Surtout celle-là. Ça, c'est un fait divers vrai. Il y a quelqu'un qui a pris le nom du prince, le frère du roi, et elle a commencé à circuler sur Facebook avec ce profil. Elle a été arrêtée.
Donc vous répondez à la question.
Oui.
On ne peut pas jouer avec tout le monde, finalement. Tout a des limites.
On ne peut pas jouer avec tout le monde. Mais voilà, donc. Mais la réaction de Rahal, elle était extraordinaire. Parce que finalement.
Parce que le prince demande à rencontrer cette mystérieuse. Oui, inconnu, voilà, qui écrit tellement bien.
Absolument, absolument.
Et il veut la rencontrer à Marrakech.
Absolument. Et Rahal, il était là pour dire, mais comment ça? Ça, c'est un prince, on ne joue pas avec les princes.
Vous avez un frère jumeau?
Oui, qui s'appelle Taha Adnan.
Qu'est-ce qu'il fait?
Elle est écrivain, lui aussi, il vit à Bruxelles.
D'accord. Vous devez pas vous ennuyer tous les deux, finalement. C'est marrant, ça, d'avoir un frère jumeau qui fait la même chose que soi-même.
Oui, elle est poète, elle écrit la poésie, elle écrit des nouvelles. Déjà, il a co-écrit avec moi le dernier livre qu'on vient de publier chez Sirocco au Maroc, Marrakech Noir.
Alors, c'est une connexion. Alors, c'est bizarre parce que Marrakech, pour moi, c'était rouge. Enfin, c'était ocre.
Oui, elle est ocre. Elle est ocre, elle est rouge, elle est joyeuse.
Sinon, c'est Stendhal en rouge et noir.
Oui, c'est Stendhal. Ça, c'est vrai. Non, il faut dire que c'est une collection américaine sur du polar, sur les villes noires. Donc, il y a Paris noir, Rome noir, Chicago noir, etc. Et ils m'ont demandé de faire Marrakech noir et j'ai coordonné ça pour eux. Et, Mahi Bin Bin, Fouad Al-Aroui, mon frère Taha Adnan et d'autres ont participé dans ce livre qui est sorti à New York en anglais et maintenant il est traduit en français par Sirocco Éditions.
Voilà, qui arrive en France. Vous avez animé des émissions culturelles?
Oui.
Au Maroc. Maintenant vous êtes un sujet finalement. Qu'est-ce que ça fait de passer de l'autre côté du micro?
Ouais,
est-ce que vous avez la même indulgence avec vous-même que vous aviez pour vos invités auparavant?
Il faut dire que vraiment, quand je suis... Parce que j'étais... Moi, je suis écrivain avant de faire...
Vous êtes un écrivain qui a fait des médias.
Oui, mais j'étais toujours un écrivain avant. Et c'était l'écrivain qui était demandé pour... travaillé pour la télévision marocaine pendant 12 ans et maintenant je travaille à Al-Rad en Égypte. Je suis entre le Caire et Marrakech ces deux dernières années. Mais il faut dire que quand je suis là comme écrivain, mais vraiment c'est la casquette de l'écrivain. J'oublie que je fais ce métier. Et j'essaye de ne pas être très pris par le fait que je fais ce métier. Je suis là à vos ordres, mon colonel.
Bien. Hot Maroc, donc c'est votre premier roman. Ouais. Donc c'est une traduction française d'un roman que vous avez écrit en arabe.
Oui.
Vous l'avez lu en français ?
Bien sûr. Ah, bien sûr, j'étais le premier lecteur.
Ouais.
J'étais le... Parce que France Maillère, qui est une traductrice extraordinaire, c'est une prof à l'université en Australie. Et c'est une Française qui a grandi à Inzaghen, à côté d'Agadir, et qui a pris son bac à Marrakech, qui a traduit le prix Nobel Najib Mahfoud. Il a traduit 7 romans de Najib Mahfoud. Il a traduit 19 romans arabes, modernes. Et c'est pour la première fois qu'il traduit un roman marocain. Et le fait que c'est un roman de Marrakech, il se considère marrakchi comme moi. Donc c'était un plaisir de travailler avec elle et de coopérer avec elle.
Voilà, parce tradition. Qu'elle comprend les lieux, elle comprend l'ambiance.
La Darija, ouais. Aussi, la Darija.
La Darija, c'est la, votre c'est, langue.
Oui, c'est le Moroccan dialect.
La langue de la rue.
La langue de la rue.
Bien.
On a beaucoup de dialogue, en fait, en Darija, dans le roman.
Voilà, et vous avez l'honneur de la collection Simbad, chez Actes
ouais,
Sud.
Bien sûr. Voilà. Le pour fameux un... Farouk Mardambik.
Ben oui, Farouk Mardambik, pour votre premier roman. Merci Yassine Annan de vous être arrêté sur Beurre FM aujourd'hui.
Merci Philippe, c'est un plaisir de
d'échanger dans toutes ces langues. Et passez un très bon dimanche sur Beurre FM.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.